10h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix, je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pendant une heure pour toute cette semaine en compagnie de ma camarade Ambline. Comment
bonjour,
ça va?
Bonjour Olivier,
le
bonjour
week-end
à tous,
a été bon?
Excellent, merci beaucoup.
Pendant cette heure, comme vous le savez, nous partageons vos expériences de vie, qu'elles soient agréables ou plus difficiles, votre vécu nous intéresse. On dit qu'en France, 6 à 8% de la population a des troubles 10. 10 pour dyslexie, dysorthophonie, dyspraxie ou encore dyscalculie. Il en existe six de répertoriés pour l'instant. Tous affectent l'apprentissage, la lecture, le langage, l'orthographe, mais aussi le corps. La plupart des enfants atteints de troubles 10 peinent à avoir une scolarité normale, d'autant qu'ils peuvent aussi provoquer un déséquilibre psycho-affectif compliquant la relation à l'autre. Comme le rappelle la Fédération française des troubles 10, ceux-ci sont innés mais peuvent parfois être provoqués par des traumatismes physiques aussi. Comment fonctionne le cerveau des personnes 10? Comment prendre en charge ceux qui souffrent de troubles 10? La France est-elle suffisamment préparée et formée? Les troubles 10, comment vivre avec cette différence? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Vous composez le 3921, le standard d'Europe 1. 3921, 50 centimes la minute. Vous nous laissez un message sur Twitter si vous le souhaitez avec le hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Françoise sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Françoise.
Bonjour Olivier.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors j'ai 46 ans et je vous appelle d'un petit village en Moselle, Saint-Louis-les-Beach.
D'accord. Alors Françoise, vous êtes la maman de deux enfants qui ont des troubles 10. Mais avant de parler d'eux, intéressons-nous à vous car vous êtes vous-même dyslexique et dysorthographique. Pouvez-vous nous dire ce que sont ces deux troubles déjà?
Alors la dyslexie, c'est un trouble à l'acquisition de la lecture.
Oui.
Donc, vous pouvez lire, par exemple, un journal. Moi, je ne pourrais pas lire un journal en papier parce que c'est écrit trop petit.
Oui.
Le texte est justifié. Donc, en fait, l'écart-type entre chaque lettre est différent suivant chaque ligne. Mm-hmm. Et pour moi, c'est très perturbateur.
Mm-hmm. Par exemple, en fait, moi, je pense que je souffre un peu de dyslexie. Donc, en fait, vous voyez, j'ai par exemple, lu au début de cette émission, physique, en fait, et j'ai dit psychique. Parce que j'ai vu psychique. Est-ce que c'est ça, un trouble? On voit un mot à la place d'un autre?
On peut voir un mot à la place d'un autre parce qu'on fait un balayage trop rapide, en fait.
Oui.
On fait des inversions syllabiques, on peut faire des inversions phonologiques.
Mm-hmm.
On peut lire une syllabe qui est dans la ligne du dessus avec un mot qui est dans la ligne du dessous, donc on fabrique un mot qui n'existe pas.
Oui.
Donc c'est un peu plus compliqué, mais ça, ce sont les orthophonistes en fait qui dépistent les dyslexies.
Mmh. Alors comme moi, vous êtes né dans les années 70 et vous dites qu'à l'époque ces maladies n'étaient pas du tout reconnues et que finalement on ne diagnostiquait pas ces maladies.
Alors non, et puis on était en fait le bout en train de la classe parce que quand on nous faisait lire à voix haute, forcément on lisait un peu tout et n'importe quoi.
Oui.
Quand on faisait des dictées, en général, on montrait ma copie en disant « elle a gagné le record, elle a fait moins 36 fautes au lieu de moins 41 mm-hmm. », par exemple. Donc oui, l'estime de soi en prend un sacré coup. Et,
ce qui faisait de vous, finalement, une enfant différente aux yeux des autres?
Oui, c'est ça, mais je compensais mes mauvaises notes, on va dire, de français par mon côté bout en train et j'en rigolais avec les autres.
Mm-hmm. Donc vous n'en souffriez pas trop?
Non, non.
À quel moment avez-vous été diagnostiqué?
Alors plus ou moins vers la fin de la primaire.
Oui.
J'ai pas vraiment été pris en charge et je n'ai eu droit à des adaptations pour mes examens qu'une fois que je suis partie en Angleterre faire un bachelor degree.
Mmh.
En France, je n'ai eu aucune adaptation que ce soit.
Et finalement, en fait, à quel moment précis vous avez été diagnostiqué tel quel?
Honnêtement, je pourrais pas vous le dire.
Uh-huh.
J'en sais rien. C'était il y a trop longtemps, et puis après, on a dit que c'était une bonne excuse, parce que ça me permettait de pas travailler, que j'étais paresseuse, que je lisais pas, bah forcément, parce que j'aimais pas lire, donc je lisais pas.
C'est souvent ce dont souffrent d'ailleurs les enfants qui souffrent de troubles 10, c'est qu'au début, on les prend pour des enfants qui ne veulent pas travailler, qui sont feignants. Or, évidemment, quand on se rend compte, après, on comprend pourquoi ils fatiguent plus vite que les autres. Comment appréhendez-vous aujourd'hui ces troubles? Comment vous vous soignez?
Oh, je me soigne pas.
D'accord.
J'adapte. En fait, on est 10, on meurt 10. Hein. Ça se soigne pas, il n'y a pas de pilule miracle, ni rien du tout. C'est, il faut trouver des moyens de compensation. Mm-hmm. Donc, si j'ai envie de lire un article de journal, j'irai l'acheter en ligne pour pouvoir l'adapter comme je veux sur un écran. Mm-hmm. On a cette chance maintenant de vivre à l'ère du numérique. Et donc, pour nous, c'est une vraie libération.
Une amélioration importante. Vous, on le disait en début, vous êtes maman de deux enfants hein, qui ont des troubles 10. De quels troubles souffrent-ils ?
Alors mon aîné, alors ils ont plein de choses. Hein. Mon aîné est TSA, donc il a un trouble autistique en plus, donc il est autiste de haut niveau. Mmh. Il est dyspraxique, dysgraphique et dysorthographique. Donc dyspraxique, la non-coordination motrice.
Oui.
Dysgraphique, forcément, ça touche la motricité fine. Donc il ne peut pas écrire à la main, mais vraiment pas du tout écrire à la main. Mmh. Et dysorthographique, mon enfant lit plus de 800 à 1000 pages par semaine et pourtant il n'est pas capable d'écrire trois fois le même mot dans un devoir.
D'accord.
Et sans l'écrire avec trois orthographes différentes. Et ma petite, alors c'est un 10 que vous n'avez pas énuméré, elle est 10 exécutive.
Mmh. C'est ce pourquoi je disais 6 sont répertoriés pour l'instant, mais je sais qu'il y a plein d'autres formes de 10 qui sont en ce moment recherchées en fait, étudiées par des chercheurs parce qu'ils ne sont pas encore définis de manière précise. 10 exécutif, c'est quoi exactement ?
Alors, c'est un peu associé aussi au TDAH.
Oui.
Michel Mazot, donc le docteur Michel Mazot était à Strasbourg là, pour la journée des 10, elle en a parlé. En fait, ils ont un problème de mémoire de travail, de comment on décompose le travail pour arriver à la solution.
Mmh.
En fait, c'est vraiment très compliqué pour eux parce qu'ils sont super méga intelligents, mais ils manquent en fait la clé pour ouvrir la boîte.
Mmh. C'est-à-dire,
et quand ils ne trouvent pas la clé pour ouvrir la boîte, eh ben, ils ne peuvent pas dire ce qu'il y a dedans.
Impossibilité de... En tout cas, ils reçoivent l'information, mais ils ne peuvent pas s'organiser pour mettre tout ça en pratique, c'est ça ?
C'est ça.
Mmh. Françoise, vous restez avec nous. On va reparler de vos deux enfants juste après.
Europe 1.
Vous vivez avec des troubles 10, dyslexie, dyspraxie, dysphasie. C'est le cas d'un de vos proches, de votre enfant. On vient de le voir. Venez nous raconter votre quotidien au 39-21, 50 centimes la minute. Nous parlons des troubles de l'apprentissage, des troubles 10, dyslexie, dysphasie, dyspraxie. Quel est votre parcours ? Celui d'un de vos proches, on vous attend au 39-21. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes toujours avec Françoise qui nous expliquait il y a quelques instants souffrir de troubles 10 et puis s'est aperçu que ses deux enfants souffraient eux-mêmes de troubles 10. Ces deux enfants, Françoise, comment les accompagnez-vous au quotidien ?
Alors, autant on est prof à domicile pour les aider, on est parents comme tout le monde pour tout le reste, on doit être en même temps administrateur parce qu'on doit s'occuper d'énormément de papiers, de démarches administratives très contraignantes.
Oui.
On doit connaître la loi pour monter les dossiers MDPH, donc ça c'est assez compliqué et faut être là en fait pour eux, ne pas les étouffer mais les encourager.
La MDPH les suit parce que je sais que c'est assez... Ça n'est pas partout en France la même chose. Je rappelle que la MDPH est la maison du handicap. Et en fait, il y a des départements où la MDPH prend en charge certains troubles. Et puis d'autres, on ne sait pas pourquoi, les enfants ne sont pas pris en charge.
C'est ça le pire, c'est que c'est un trouble qui touche tout le monde.
Oui.
Et suivant qu'on vit dans le nord ou dans le sud, à l'est ou à l'ouest, les démarches ne seront pas les mêmes. Les notifications que les enfants auront ne seront pas les mêmes. Même pour les aménagements aux examens, ça ne sera pas pareil, il y a une inégalité phénoménale. Il n'y a aucune décision qui a été nationalisée.
Mmh.
Donc les prises en charge, les aides, nos enfants, ils ont besoin par exemple d'ergothérapie, l'ergothérapie n'est pas remboursée.
Oui, oui. Et c'est cher en plus.
Et faire un bilan, c'est horriblement cher. Oui.
Quelles difficultés rencontrent vos enfants aujourd'hui à cause de ces troubles 10 ? Parce qu'on le disait en début, ça affecte le rapport à l'autre. Est-ce que ces deux enfants souffrent de cela ?
Alors, surtout ma fille a une mauvaise estime d'elle qui est phénoménale, elle est toujours en train de dire qu'elle est mauvaise, qu'elle sait rien faire, qu'elle sert à rien. Ma puce, elle est la plus jeune, donc elle a 9 ans, est plus touchée par ce qui se passe que son grand frère qui en a 12.
Mmh.
Je pense qu'il a été reconnu beaucoup plus tôt.
Ouais.
La dyspraxie, se voyant très tôt, il a eu cette chance d'être diagnostiqué très tôt.
Mmh.
Donc on a eu aussi cette chance d'avoir un pédiatre qui nous envoie dans un CRTLA, donc un centre référent des troubles du langage et de l'apprentissage, où il a pu suivre une batterie de tests et on a pu mettre un nom très vite sur ses problèmes et trouver des solutions.
Et bien évidemment, lorsque lorsqu'on diagnostique le plus vite possible, on peut bien évidemment adapter sa vie par rapport à ces troubles. Merci Françoise pour votre appel au 3921. Nous allons accueillir maintenant Charlotte. Bonjour Charlotte, soyez la bienvenue.
Bonjour, merci.
D'où nous appelez-vous Charlotte ?
De près de Saint-Étienne.
Près de Saint-Étienne, et vous avez quel âge ?
28 ans.
28 ans. Alors, il y a 2 ans, vous avez été diagnostiqué dyslexique. Quels sont ces troubles qui vous habitent ? La dyslexie, c'est quoi exactement ?
Alors, c'est des difficultés dans la lecture. Donc moi, quand j'ai compris que j'étais dyslexique, j'étais en deuxième année de formation d'éducatrice spécialisée. Et on avait des études de cas avec 14 pages à lire, en fait.
Oui.
Et j'avais vraiment des difficultés à lire, à synthétiser, à structurer mes écrits. Et j'avais beau réviser mes cours, tout ça, les notes n'évoluaient pas. Quoi. Donc,
Parce que Françoise, en première partie d'émission, expliquait qu'elle était elle aussi dyslexique, mais qu'elle remplaçait un mot par un autre. Vous êtes reconnue dans ce qu'elle racontait ?
Oui, tout à fait. Par exemple, je peux confondre des mots. Au lieu de dire troc, je vais dire croc.
Oui, oui, oui.
Je vais vraiment confondre plusieurs mots. Il va y avoir, par exemple, j'en avais noté certains. Une personne lambda, je vais dire lambda.
Oui.
Le mot amaché, je vais l'écrire amoché.
Oui, oui, amoché.
Oui. Je vais vraiment confondre les lettres, mal les placer. Enfin, c'est vraiment compliqué. Et dans la lecture, il faut vraiment déchiffrer. Ça prend énormément de temps et de fatigue, en fait.
Et ce qui impacte clairement votre compréhension par rapport à un texte, par exemple, je suppose que ça vous a handicapé. Qu'est-ce qui vous a poussé à consulter, puisque ce n'est qu'à 26 ans que vous avez été diagnostiqué ?
Alors, je travaillais en apprentissage dans une maison d'enfants où, du coup, j'accompagnais des enfants qui étaient placés par le juge.
Oui.
Et qui avaient aussi des difficultés à l'école. Donc, quand je faisais les devoirs avec eux, je me reconnaissais dans leurs difficultés, en fait. Et certains enfants étaient suivis par une orthophoniste. Donc, quand j'y allais faire les bilans avec l'orthophoniste, j'avais l'impression qu'elle me décrivait. Et j'ai eu cette chance de me dire, dis donc, ça se trouve, moi aussi, je le suis, en fait. Et j'y connaissais rien avant. Et je pense que c'est grâce à ça, en fait, que j'ai ouvert les yeux sur mes difficultés et après j'ai pris la décision, du coup, de faire un bilan.
Charlotte, vous restez avec nous. Justement, on va parler de ce diagnostic et du soulagement que cela a pu vous apporter dans quelques instants.
Et il y a Calvin qui témoigne sur Facebook. Mon fils de 10 ans, dyslexique, dyspraxie, dysorthographique, le long combat avec l'école pour trouver un programme adapté pour éviter toute frustration et saturation de l'enfant. Long combat aussi avec les professionnels psychomotriciennes, orthophonistes, ergothérapeutes. Vous reconnaissez dans les témoignages de Charlotte, Françoise, qu'on a entendu, de Kelvin. Vous avez envie de témoigner aussi au 3921. N'hésitez pas, vous êtes atteint de troubles 10. Comment ça se passe au quotidien ? Vous êtes avec Olivier Delacroix et vous composez le 3921 pour venir nous raconter votre expérience. Vous êtes atteint de troubles 10, dyslexie, dysphasie, dyspraxie. C'est le cas d'un proche de votre enfant. Écrivez-nous, réagissez également sur Twitter, hashtag Europe 1.
Et nous sommes toujours avec Charlotte, qui n'a été diagnostiquée qu'à l'âge de 26 ans. En fait, ça a été un soulagement pour vous, Charlotte, de savoir que vous étiez dyslexique.
Oui, tout à fait, parce que je suis passée entre les mailles du filet toute ma scolarité.
Oui.
Et le fait de savoir, de mettre des mots sur mes difficultés, je me suis dit, je suis pas bête, en fait, c'est un handicap, quoi. J'ai pas un retard mental, parce que souvent je me cachais sur le fait que je suis blonde, en fait. Donc quand je faisais des erreurs, que ce soit à l'école ou quoi, je disais, c'est bon, je suis blonde. C'était bête, je me disais maintenant avec le recul. Et puis, toutes ces humiliations aussi à l'école, tout ce que j'ai pu subir.
C'est ce que j'allais vous demander, justement, parce qu'on sait que les enfants sont extrêmement violents les uns avec les autres et aucune pitié. Et vous avez eu droit à des remarques très blessantes.
Oui, en anglais, j'étais incapable d'aligner une phrase en anglais. Donc les camarades se moquent de l'accent, tout ça. Et moi, après, je mettais des stratégies en place, des stratégies d'évitement. Je faisais tout pour pas passer au tableau, pour pas qu'on m'interroge. J'allais aux toilettes ou je faisais celle qui avait mal au ventre pour pas qu'on m'interroge. Enfin, c'était constamment des stratégies à mettre en place pour éviter justement les remarques, quoi.
Est-ce que ça a impacté votre relation à l'autre ? Parce que souvent, les enfants qui souffrent de troubles 10 aussi, finalement, à force qu'on se moque d'eux, ils manquent de patience. Et puis, il y a vraiment un souci pour se lier avec les autres. Et souvent, ces enfants sont seuls. Est-ce que c'était votre cas aussi ?
Non, 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 j'avais des copines, hein, mais c'était plus, voilà, j'étais le cancre, quoi, on me mettait au fond de la classe, on m'ignorait, mais j'avais ma petite bande de copines, et voilà, après, j'avais des problèmes d'attention, où je pouvais très bien être timide, et le lendemain, bah, ne plus rien écouter en cours, quoi, j'étais complètement démotivée, mais voilà, non, j'étais pas vraiment seule, non, pour ça, là-dessus, j'ai eu de la chance, hein, mais... Non, non, ça allait.
Vous en avez beaucoup voulu à votre famille, hein, de ne pas vous avoir fait consulter avant et que vous n'ayez pas été diagnostiqué plus tôt. Mais est-ce que ce père, cette mère, était-il désemparé devant ce trouble qu'il ne connaissait pas finalement ?
Bah, ils étaient comme moi, ils n'étaient pas bien au courant de ce que c'était la dyslexie, puisqu'à l'époque, on en parlait très peu, quoi. Mmh. Donc c'est vrai que sur le moment, moi, j'étais en colère, parce que bah, j'ai redoublé le CE1, et je me dis, bah, ça se trouve, j'aurais pas dû redoubler, quoi. Mais j'en veux pas du tout maintenant à ma famille, et puis bah, actuellement, mon père se demande lui-même s'il est pas dyslexique, maintenant que je lui en parle et qu'il prend connaissance des choses, quoi. Mais c'est vrai que sur le moment, oui, on a de la colère, on est à la fois aussi soulagé, puis on a encore plus de colère parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas de prise en charge, parce qu'il n'y a pas de place chez les orthophonistes. Oui. Alors déjà que c'est difficile pour les enfants, mais alors quand on est adulte, bah, on n'a pas de place, quoi. Les délais d'attente sont très longs, liste d'attente, on n'en finit plus, quoi. Mmh.
Parce donc, que voilà. Finalement, ces troubles 10 ne se soignent pas. Hein. On va le voir dans quelques instants avec Nathalie Gros, qui est présidente de la Fédération française des 10. Mais en fait, on consulte, hein, tout un tas de spécialistes pour améliorer sa vie que la vie soit plus facile avec ces troubles. En tout cas, merci Charlotte pour votre témoignage au 3921. Nous accueillons maintenant, donc comme je le disais, Nathalie Gros, présidente de la Fédération française des 10. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Bonjour. Pouvez-vous tout d'abord nous expliquer ces différents troubles qui existent ? Parce qu'on évoquait le nombre de 6, mais est-ce vraiment la réalité ?
Oui, à plusieurs. Et ce qui est charmant dans le trouble 10, DYF, qui veut dire dysfonctionnement, oui, c'est qu'ils peuvent se combiner entre eux. Donc vous avez la dyslexie, hein. Ça a été dit, c'est une altération de la lecture, savoir lire. Mmh. La dysorthographie, c'est plutôt des difficultés au niveau de l'orthographe. La dysphasie, qui touche plutôt le langage oral, donc c'est des enfants qui apprennent la langue française comme s'ils apprenaient leur langue maternelle dans une langue étrangère, donc c'est assez compliqué de parler. La dysgraphie, une altération de l'écriture, donc là c'est des enfants qui écrivent très mal, donc ils ont beaucoup de peine à se relire parfois. La dyspraxie, qui est la coordination et des gestes, donc des enfants extrêmement maladroits, oui, oui, mais aussi pour se repérer dans le spatial. Mmh. La dyscalculie, qui est moins bien connue et qui est quand même très embêtante, puisque c'est les capacités dans le calcul et à appréhender les chiffres. Mmh. Et vous mélangez tout ça en mettant également le TDAH. Donc le TDAH, c'est un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité.
Oui, oui,
voilà.
Oui.
Donc on a la difficulté, c'est à quel âge apparaissent ces troubles. Vous avez des troubles qui apparaissent avant l'école, avant les apprentissages. Donc la dysphasie, le langage oral, puisque le langage s'installe pas très bien. La dyspraxie, donc des gestes. Et puis, il y a ceux qui arrivent au moment des apprentissages. Donc, vous avez la lecture, l'orthographe, l'écriture et le calcul.
Et c'est souvent là, en fait, que les premiers diagnostics sont posés.
Oui. Alors, les premiers diagnostics, hélas, en France, pour rebondir sur le témoignage de Charlotte, c'est que en France, c'est reconnu depuis 2001 seulement. Donc, elle avait 9 ans quand le plan Ringard-Weber a lancé une grande campagne pour justement créer les centres de référence. Donc, vous avez, en ce qui concerne la dysphasie, la dyspraxie, qui peuvent être repérés un peu avant l'âge de 6 ans, mais la majorité des troubles sont plus proches entre 6 et 9 ans.
Nathalie Gros, restez en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes présidente de la Fédération française des 10 et nous continuerons à évoluer, à parler de ces troubles 10 dans quelques instants.
Et vous êtes nombreux à réagir et à témoigner, notamment sur le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Alors je me permets de lire que des extraits de vos messages. Karine, cela fait partie du parcours du combattant d'expliquer continuellement aux enseignants, à l'entourage, sans compter la perte de confiance confiance qu'ont nos enfants.
Europe 1.
Dyslexie, dysphasie, dyspraxie, ces troubles de l'apprentissage, vous en êtes atteint. Votre enfant, comment êtes-vous aidé? Vous nous racontez au 39-21 et puis vous nous écrivez aussi Twitter, hashtag Europe 1. On parle des troubles de l'apprentissage. Comment avez-vous été aidé? C'est le cas de votre enfant, il est atteint de troubles de l'apprentissage, comment est-il pris en charge? Venez aussi nous raconter votre histoire au 39-21. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes toujours en ligne avec Nathalie Gros, présidente de la Fédération française des 10. Nathalie Gros, je connais plein de parents qui ont vécu un véritable chemin du combattant pour arriver à faire diagnostiquer leur enfant. On a l'impression que c'est très difficile encore à déceler ces troubles. Pourquoi?
C'est très difficile parce qu'il y a un dénominateur commun, c'est la formation.
Oui.
La formation des médecins qui n'existe pas, ou très très peu, et la formation des enseignants.
Est-ce que la France a clairement du retard par rapport à, je pense par rapport à ses voisins de l'Europe du Nord, par exemple, je pense à la Suède, à la Norvège, le Danemark, où on entend parler de classes où on intègre directement ces enfants souffrant de troubles 10?
La France a du retard dans la prévention,
oui.
C'est-à-dire que dans le dépistage, tout est très lent, puisque en fait, c'est mal connu. Les enseignants ne sont pas formés à ces troubles. Donc, ils les dépistent, ils les repèrent avec les parents. Il faut savoir que 6 fois sur 10, les parents ont détecté qu'il y avait un problème.
Oui.
Ensuite, il y a les enseignants, bien évidemment, mais c'est tellement long. À mettre en place. Ce qui est difficile, c'est de poser le diagnostic. La démarche de diagnostic, pourquoi? Parce que, comme disait Françoise dans le premier témoignage, c'est que les neuropsychologues, les ergothérapeutes, les psychomotriciens ne sont pas remboursés. Donc, si vous voulez réaliser un bilan, il faut que vous engagez une dépense et un reste à charge qui peut être de l'ordre de 1 000 euros.
Ce qui n'est pas à la portée de tout le monde, on est d'accord. Mais lorsqu'on voit que 6 à 8% de la population est touchée, on parle d'un problème assez grave, non?
Oui, 1 million d'élèves. On compte 1 million d'élèves, 8%, entre le premier degré et le deuxième degré. Seulement 52 000 élèves ont une reconnaissance de situation de handicap en ce qui concerne les troubles 10.
Alors,
ça fait très très peu. Donc la reconnaissance, on le voit à travers la mise en place de projets personnalisés de scolarisation. Il y a également d'autres plans qui sont mis en place, mais on ne connaît pas les chiffres.
Une question, Nathalie Gros de Twitter, hashtag Europe 1, Endless Love, qui nous demande si les troubles 10 peuvent être héréditaires. Ou est-ce que c'est suite à un choc émotionnel, physique, psychique ou autre? En gros, l'origine des troubles.
Alors, la première chose, c'est que l'ensemble des troubles 10 rentre dans une définition des troubles neurodéveloppementaux. Donc, qui dit troubles neurodéveloppementaux, c'est pas un trouble acquis. C'est-à-dire que c'est dans le développement de l'enfant, c'est pas psychique, c'est pas physique, le cerveau fonctionne bien. Ça se voit pas dans les IRM, il n'y a pas de lésion particulière. Donc, du coup, c'est ça qui rend compliqué les choses.
Et en quoi peuvent-ils provoquer un déséquilibre psycho-affectif, parce qu'on parle des difficultés dans l'apprentissage, mais d'un point de vue psycho-affectif?
Alors là, finalement, on parle actuellement, c'est à la mode, on parle de l'inclusion,
oui.
C'est-à-dire que quand vous avez quelque chose qui est différent, si l'environnement n'est pas au courant, n'est pas bienveillant, on vous écarte. Donc ce que vivent les jeunes élèves 10, c'est un peu la discrimination, tout
oui,
court.
Oui.
C'est-à-dire qu'on se moque d'eux. Si vous ne savez pas bien parler, on vous isole. Si vous êtes maladroit, vous ne jouez pas au foot, pour les garçons par exemple. Et quand vous écrivez mal, que vous lisez mal, on pense que vous êtes bête.
Oui.
Voilà. Donc ça, c'est très dur. L'estime de soi est vraiment touchée et c'est très dur pour tous ces jeunes.
On parlait du trouble 10 exécutif tout à l'heure. C'était notre deuxième témoin qui parlait
du
trouble de Charlotte et qui voyait sa fille avoir des problèmes de concentration et avoir du mal à prendre une information et à s'organiser. Ces enfants souffrent clairement du regard des autres et sont souvent exclus et souffrent. Donc, et quand les parents, quand les enfants souffrent, les parents souffrent. Vous restez en ligne avec nous, Nathalie Gros. Je rappelle que vous êtes présidente de la Fédération française des 10. Dans un instant, nous serons avec Alexandra. Elle est la mère d'un jeune garçon de 18 ans qui est dyspraxique.
Et vos messages et témoignages vont dans le même sens hein, sur le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1. Olivier, vous parliez tout à l'heure de parcours du combattant. Céline qui nous dit, malgré une alerte de la Haute Autorité de la Santé de 2015 sur l'importance d'une prise en charge précoce, nous nous heurtons à des délais de prise en charge de 2 ans environ. Les troubles de l'apprentissage, de la lecture, de l'écriture, du langage. C'est votre histoire, venez discuter avec Olivier Delacroix au 3921. Des accros de lecture, des mots mal orthographiés, des calculs impossibles à faire. Comment vivez-vous avec vous avec des troubles 10, les troubles de l'apprentissage? Vous venez discuter avec Olivier Delacroix sur Europe 1 au 39-21.
Et on parle aujourd'hui donc de ces troubles 10. Mmh. Je pensais aux chiffres 6 à 8% des personnes touchées. Et imaginez tous ces enfants qui ont des parents qui n'ont pas les moyens hein, de les faire diagnostiquer et qui n'en ont même pas eu l'idée. Donc ça donne des enfants qui sont souvent au fond de la classe, dont on s'occupe pas, dont on pense qu'ils ne font aucun effort. Et puis ces enfants-là, on les retrouve parfois dans les centres d'éducation fermés. On pense que ce sont des enfants à problème alors qu'on ne s'est pas occupé d'eux. Je tenais à le préciser parce que j'ai un ami qui travaille dans la protection judiciaire de la jeunesse et on retrouve beaucoup de ces enfants qui souffrent de ces problèmes. Je voulais faire cette petite aparté qui me semblait importante. Bonjour Alexandra, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour, je vous remercie.
Votre fils, Alexandra, a été diagnostiqué dyspraxique très tôt, dès le CP. Les dyspraxiques sont des enfants pathologiquement maladroits. Que voyez-vous comme différence chez lui?
Alors, déjà tout petit, à l'école maternelle, il ne faisait pas les jeux de cubes, donc il passait déjà pour un ovni. Vous savez, les enfants, c'est très bien qu'ils mettent les cubes les uns au-dessus des autres. Ça, c'était pas du tout son truc. Mmh. Le dessin était affreux, horrible. Il ne mettait pas dans les cases, il ne marchait pas de façon tout à fait fluide comme les autres enfants, il ne jouait pas au ballon, il avait tout un tas de trucs qui ne l'intéressaient pas par rapport aux autres garçons de sa tranche d'âge.
Ça ne l'intéressait pas parce qu'il n'y arrivait pas, tout simplement.
Bah oui, voilà, c'est ça. Mmh. Donc les gens autour disaient, bizarre, il est curieux cet enfant, il n'est pas comme les autres. Quoi. Mmh. Voilà.
Ça a causé chez lui, dès l'âge de 8 ans, une profonde dépression. Qu'est-ce qu'il vous disait?
Alors, quand on a fait le diagnostic, quand on est sorti de chez le psychomotricien pour faire le diagnostic et qu'on lui a dit « c'est pas de ta faute », pour lui, ça a été un énorme soulagement, les enfants culpabilisent énormément. En fait, les instituteurs leur montrent leur travail en disant « mais c'est pas possible ce que tu fais ». Effectivement, c'est pas possible, mais parce qu'ils sont pas en capacité de le faire, et non pas parce qu'ils ont pas envie de bien faire. Mmh. Donc, la distorsion entre le faire bien et pouvoir le faire, ça leur cause des souffrances internes énormes.
Mmh. Alors, Donc, justement, Alexandra, j'aimerais m'arrêter là-dessus, parce que c'est très important aussi, cette facette-là de ce qu'affrontent les enfants 10. Mmh. Vous avez dû croiser des instituteurs qui n'y comprenaient rien, en tout cas qui ne voulaient pas comprendre et qui pensaient que votre fils était en tout cas faisait exprès.
Anormal.
Voilà, anormal.
Oui, ouais. Oui, voilà.
Et est-ce que ces instituteurs refusaient même de s'en occuper?
Refuser, je ne sais pas, mais en fait, il l'accueillait pas de la même façon que les autres. Donc, je peux pas dire qu'il le laissait en échec, mais il le stimulait de mauvaise façon, j'ai envie de dire, parce qu'ils allaient chercher des choses chez lui par la crainte ou par la contrainte. Mmh. Donc, du coup, c'était une mise en échec injuste, volontaire. Donc c'est là que c'est la complexité de la chose. Il y a un instituteur qui le laissait sous son bureau en classe et qui tapait sur le bureau et ça faisait des crises d'angoisse énormes. Mmh. Donc ça, c'est compliqué à vivre.
Alors, il a été pris en charge, ce petit bonhomme. Racontez-moi quelle sorte de prise en charge a-t-il eu et comment cela a-t-il évolué jusqu'à aujourd'hui?
Alors, en CP, il avait à peu près 4 rééducations par semaine fixes. Il avait du psychomotricien, psychologue, ergothérapeute, orthoptiste, orthophoniste. Mm-hmm. tout ça sur le temps scolaire. Enfin, on le sortait de la classe.
Oui.
Pour alors, après, on a laissé le... Après, en, quand ça a été le trop du trop en CE2, on a dû aller chez le pédopsychiatre une fois par mois et chez le psychologue chaque semaine. En plus, enfin voilà.
Comment
des antidépresseurs. Voilà,
Oui, d'accord. Comment ça s'organise la vie pour cet enfant? Je vous ai entendu dire que vous le sortiez de l'école, donc ça doit être très compliqué l'emploi du temps pour un enfant comme ça. Et comment vous financiez ça aussi?
C'est là toute la problématique. Ce sont en plus des enfants très fatigables. Donc, on ne peut pas leur faire les rééducations en dehors, après l'école, parce que ça rajoute encore de la fatigue à leur journée de travail, qui est pour eux beaucoup plus importante que les autres. Donc, les mamans doivent aller chercher l'enfant à l'école, l'emmener à droite, à gauche, etc., rester dans les salles d'attente. Donc, les mamans, en général, elles ne travaillent pas, au moins. Alors, il y a une petite allocation par la MDPH et la CAF, les allocations familiales. Voilà, mais il y a plein de rééducations qui ne sont pas prises en charge. Et pour faire le dossier, pour réclamer un remboursement de ces prises en charge qui ne sont pas remboursées,
C'est un parcours du combattant.
Ouais. Et je pense qu'il y a plein de gens. Moi, je suis très intimidée, donc je bafouille un peu, mais dans la vraie vie, je suis un peu dégourdie, on va dire.
Ouais.
Donc, je sais faire ce genre de dossier, je sais le remplir, mais j'ai souvent pensé aux mamans qui sont plus moins dégourdies, reprends le terme, pour faire ça. Et c'est hyper complexe parce qu'il faut répéter sans cesse. On nous demande de faire un projet de vie pour son enfant. Mmh. Alors, l'usine à gaz, le projet de vie, votre enfant, il est en CE1, il a 7 ans, il est malheureux. Et faire un projet de vie qui soit le plus heureux possible et qu'il aille le plus longtemps possible en classe. Parce qu'à côté, ce sont des enfants intelligents. Donc, les casser à 7 ans, c'est compliqué.
Et j'entends, Alexandra, que vous vous êtes totalement investie parce qu'un petit bonhomme de 8 ans, malheureux, c'est pas possible. Je sens que vous vous êtes investie complètement dans l'accompagnement de votre enfant. Je le précise parce que vous avez évoqué toutes ces mamans qui décident d'arrêter de travailler ou alors qui passent à temps partiel et qui accompagnent leur enfant. Aujourd'hui, votre fils est en terminale ES, preuve que ces enfants ont besoin d'être accompagnés, et si ce n'est par les spécialistes, en tout cas l'entourage compte beaucoup dans ce parcours du combattant qui est d'accompagner un enfant qui souffre de troubles 10.
Europe 1. Vous êtes atteint de troubles 10, dyslexie, dysphasie, dyspraxie. C'est le cas de votre enfant. Quelle est votre histoire? Pour échanger avec Olivier Delacroix, vous composez le 39-21.
Et dans quelques instants, nous allons accueillir Delphine. Son fils est dyspraxique, dyscalculique et dysorthographique.
Nous parlons de troubles de l'apprentissage cet après-midi sur Europe 1 avec Olivier Delacroix. Comment vivre avec cette différence?
Et nous accueillons Delphine sur l'antenne d'Europe 1 au 39-21. Bonjour Delphine.
Bonjour Olivier.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors j'ai 43 ans et je vous appelle de Tours.
De Tours. Vous êtes la maman d'un garçon de 13 ans qui est dyspraxique, dyscalculique et dysorthographique. On parle beaucoup de l'école, mais peu du quotidien. Vous dites que faire ses lacets, régler l'eau de la douche, ce sont des choses très difficiles pour lui. Comment gérez-vous cela avec lui?
Eh ben, je l'accompagne, je lui explique, je le culpabilise pas.
Oui.
J'essaye. Enfin, voilà. Je prends sur. On prend sur nous pour répéter des gestes simples. Pas lui faire comprendre que les autres peuvent le faire et pas lui, quoi.
Et justement, en fait, ce petit garçon souffre du regard des autres. Est-ce que c'est quelque chose qu'il affronte au quotidien?
Oui, il l'affronte. On parle de harcèlement scolaire. Je pense que là, on y arrive quand on a des enfants différents.
Oui.
Le regard des autres, le regard des camarades dans la cour est compliqué.
Le regard des autres qui est sans la moindre compassion, j'ai l'impression. Truc, la compassion, ça n'existe pas.
D'une grande violence, exactement. Pas de compassion. C'est-à-dire, on n'aide pas, mais on juge, on se moque.
Il est tout seul, votre petit garçon. Il a quelques copains ou c'est compliqué?
C'est compliqué. Il en a quelques-uns. Il a quelques enfants bienveillants autour de lui, mais finalement, il y en a peu. Il est rarement invité. Il n'est pas invité aux anniversaires. Ce qu'on peut rencontrer avec un autre enfant traditionnel.
Et
il
n'y
a pas d'invitation. Ouais.
Et ça, il en souffre, mais vous en souffrez aussi.
Oui, évidemment, on en souffre pour lui, parce que on aimerait bien qu'il ait la même vie sociale que les autres. Et puis, voilà, quand on arrive à lui organiser quelque chose, il y a un grand bonheur dans ses yeux, quoi. Alors, il est par contre très entouré d'adultes, et il a un relationnel beaucoup plus simple avec les adultes qu'il ne juge pas.
Beaucoup plus simple avec les adultes et normal, ah oui. J'ai envie de dire, non ? Parce que finalement, lorsqu'il est en confiance, cet enfant, eh bien, tout va bien avec les adultes.
Bien sûr, tout va bien. Oui. Ouais. Mmh. Qu'il est d'une grande maturité affective. Donc, finalement, il arrive mieux à dialoguer avec des adultes qu'avec des enfants.
Mmh. Que reprochez-vous à la prise en charge des enfants atteints de troubles 10 aujourd'hui ?
Ah bah tout. Ils sont pas. Alors, Gabriel est maintenant dans une classe Ulysse, qui l'a accueilli en sixième. Mmh. Jusque-là, toute la primaire avec son papa, nous nous sommes battus pour qu'il reste dans une école, dans une scolarité traditionnelle avec une AVS.
Oui.
À plusieurs reprises, on nous a demandé de le déscolariser parce que c'était pas simple pour les autres enfants de la classe.
Mmh.
Ce qu'on a toujours refusé.
Mmh.
On estimait que c'était pas à Gabriel d'être déscolarisé, ni à nous de faire l'éducation, ou comme quand il était harcelé dans la cour, en fait, on l'isolait.
Oui.
C'est lui qu'on isolait, c'était pas les autres enfants.
Mmh.
Donc maintenant qu'il est dans une classe Ulysse, la prise en charge est meilleure. À la fois, avant d'en arriver là, il y a une grande culpabilité qui se met sur les parents.
Et la classe Ulysse étant peut-être le meilleur de ce que vous avez trouvé, mais n'étant pas complètement ce qu'il y a de meilleur tout de même. Hein. Puisque je pense que la classe Ulysse, il y a beaucoup d'autres handicaps dans cette classe Ulysse.
Oui, alors à la fois, ça lui permet aussi de comprendre le handicap, d'accepter le handicap des autres, parce que dans cette classe, ils n'ont pas tous le même handicap.
Mmh.
Voilà. Ça lui permet aussi d'accepter les handicaps des autres. À la fois, j'imagine que pour l'enseignante, ça n'est pas simple d'avoir affaire à tous ces handicaps différents.
Mmh.
Alors, c'est bien pour lui parce que la prise en charge, il est reconnu en tant qu'enfant qui a des difficultés d'apprentissage. Il n'est pas obligé de suivre une masse ou de se retrouver et d'être en difficulté encore plus. L'avantage de ces classes, c'est malgré tout qu'ils apprennent l'essentiel.
Et c'est bien mieux déjà qu'au moins ils se sentent entourés d'enfants qui souffrent d'autres choses et qui ne se sentent pas seuls. Merci beaucoup pour votre témoignage, Delphine. Merci aussi à Françoise, à Charlotte, à Nathalie Gros, présidente de la Fédération Française des 10. Merci à Alexandra de nous avoir appelés. C'est la fin de cette émission. Grâce à vos témoignages, nous en savons un peu plus sur ces troubles 10 qui concerneraient presque 8% de la population française. Ces troubles sont multiples, mais surtout difficiles à déceler. Nous l'avons vu avec le témoignage de Charlotte qui a su à l'âge de 26 ans qu'elle était dyslexique. Pour pouvoir mettre un mot sur ces troubles, il faut consulter et ça soulage, mais ça permet surtout que ces troubles 10 soient pris en charge. Il faut apprendre à vivre avec. Il existe aujourd'hui des structures qui peuvent vous aider à vous orienter vers les meilleurs médecins et établissements pour vous ou pour vos enfants. N'hésitez pas à vous tourner vers la Fédération Française des 10 pour en savoir plus. Vous pouvez continuer à en discuter sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux.
Vous avez été très nombreux à réagir. On n'a pas pu lire hélas tous vos messages à l'antenne. Donc on vous invite à poursuivre cette émission via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Europe 1.
Demain, nous parlerons ensemble du cyberharcèlement, un fléau qui touche aussi bien les adolescents que les adultes sur les réseaux sociaux notamment. Alors, comment y faire face si vous avez été cyberharcelé, si l'un de vos enfants est cyberharcelé à l'école, si vous avez porté plainte pour cyberharcèlement, appelez-nous dès maintenant au 3921 pour nous parler de votre histoire. J'étais ravi de passer cette heure avec vous.
Ombline,
je vous dis à demain. Et je vous laisse maintenant avec l'excellente Laurence Boccolini sur Europe 1 et nous allons jouer et se marrer avec qui les filles aujourd'hui ?
Avec Bernard Werber.
Bernard Werber, j'avais reconnu, mais bien, il faut
ah oui, mais non, quand faut même. Lui dire, parce qu'on n'est pas filmé, nous. Alors,
ouais,
pas,
ouais,
faut... ouais. Bon, il est là, il est avec nous.
Bonne émission, et à demain, les
filles. À demain.
Europe 1.